VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous. 11h temps universel après sa large victoire présidentielle en France, marquée par un score historique de l'extrême droite, le jeune centriste pro-européen Emmanuel Macron, qui doit s'atteler dès aujourd'hui à la composition de son futur gouvernement, a reconnu n'avoir pas reçu un blanc-seing du peuple français. « Je me battrai donc de toutes mes forces contre les divisions qui nous minent », a promis celui qui, à 39 ans, va devenir le plus jeune président de l'histoire de la France après avoir remporté 66,06% des voix face à la patronne de l'extrême droite, Marine Le Pen, selon les résultats quasi donc définitifs du ministère de l'Intérieur ce lundi. M. Macron, fils de médecin au physique de jeune premier, issu des écoles de l'élite française, obtient un mandat de 5 ans à la tête de l'une des plus grandes puissances mondiales, détentrice de l'arme nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et moteur de l'Union européenne. Les perspectives de son nouveau mandat avec le professeur Souleymane Béchi Diagne de l'Université Columbia à New York.
Compte tenu de ce contexte, je crois que les démocrates ont vu les résultats avec, je dirais, un grand soulagement. C'est vrai qu'après le Brexit, après la victoire des forces populistes ici aux États-Unis, on a d'abord regardé les élections hollandaises où il était craint à un moment donné que le parti populiste xénophobe, islamophobe devienne le premier parti de Hollande. Cela ne s'est pas produit. Dès lors que ces élections étaient finies, les yeux étaient un peu braqués sur la France. On savait que le parti d'extrême droite xénophobe, le Front National, s'était beaucoup développé. À un moment donné, on pensait même qu'il serait le premier parti après le premier tour et qu'il s'agissait pour les autres de se classer en second pour pouvoir aller au deuxième tour avec lui. Une bonne nouvelle, ça a été au premier tour que ce parti n'est pas arrivé premier. Au deuxième tour, évidemment, Mme Le Pen a perdu. Donc la victoire est revenue à la démocratie, disons, et à l'idéal républicain. Donc il y a un certain soulagement de ce point de vue. On se rend compte qu'il y a quand même une mobilisation contre les forces populistes qui, à un moment donné, avaient semblé avoir le vent en poupe.
Alors, professeur, maintenant, il s'agit de savoir comment M. Macron va faire quand il s'agit du rôle traditionnel de la France et des opérations militaires de la France en zone sahélo-saharienne. Comment voyez-vous la suite ?
De ce point de vue-là, le rôle que la France jouait traditionnellement en Afrique, je pense qu'il y aura une certaine forme de continuité. Encore que M. Macron ait parlé de l'Afrique d'une manière différente. Il a parlé d'une Afrique qui avait l'avenir pour elle, d'une Afrique où les classes moyennes avaient fortement monté, une Afrique nouvelle, urbaine, et qui ne demandait qu'un partenariat. Donc il y a un certain discours qui a changé. En revanche, il est bien évident que la présence militaire dans la zone sahélo-sudanienne pour des raisons de lutte contre le terrorisme, c'est une situation de fait qui ne va pas inverser du jour au lendemain, d'autant qu'il y a une demande des États eux-mêmes. On ne voit pas le Mali qui est encore sous la menace souhaiter que la France retire des troupes, par exemple. Donc on peut penser qu'il y a là une situation de fait, que donc M. Macron va hériter de cette situation et qu'il va être dans l'obligation de continuer la même politique, je pense.
Le professeur Souleymane Béchi Diagne de l'Université Columbia à New York, interrogé par Idrissa Seydoudia. Notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa, a recueilli quelques réactions des citoyens de la capitale Niamey après la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle française.
Je pense que ces élections, d'abord, prouvent à la face du monde que tout est possible. C'est un jeune de 39 ans qui remporte les élections. Il a déclassé toute cette vieille classe. Aujourd'hui aussi, son élection a mis fin à la peur qu'avaient d'abord les Français et ensuite les autres. Donc c'est en cela que nous saluons vraiment le sens élevé du patriotisme du peuple français pour avoir su faire vraiment la différence entre la peste et le choléra. Aujourd'hui, avec l'élection de Macron, vous savez, les dirigeants français, ils ont tout le temps été clairs. Ils ont dit que la France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts à défendre. Emmanuel Macron, dans sa politique, en tout cas, il va continuer à défendre l'intérêt de la France. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'Africains, de chercher à tirer notre épingle boule de jeu en défendant l'intérêt du Niger.
C'est une victoire de la démocratie sur la tyrannie, parce que nous pouvons le dire, Marine Le Pen représente tout ce qu'il y a de tyran dans ce monde. Ça montre aussi que les Français savent ce qu'ils veulent, qu'ils sont rattachés à ces valeurs démocratiques et que c'est des hommes de droits de l'homme. Et en tant qu'Africains, nous pensons que Emmanuel Macron va continuer la promotion de la démocratie en Afrique et amener nos chefs d'État aussi à réfléchir en ce qui concerne les attentes de leurs concitoyens.
Je ne pense pas s'il y aura vraiment trop de changements. C'est vrai que Emmanuel, c'est un jeune. On peut espérer sur lui. C'est le plus jeune des présidents. Peut-être que lui, il fera un peu de changement vis-à-vis vraiment de l'Afrique, surtout sur le plan économique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Une centaine d'anciens rebelles démobilisés bloquaient ce matin l'accès sud de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, le point de départ des mutineries qui ont secoué le pays en janvier. On veut notre part du gâteau, scandait d'après l'AFP ces hommes qui arboraient des bandeaux rouges de l'ex-rébellion du Nord. Une centaine de véhicules étaient bloqués à l'entrée de la deuxième ville ivoirienne. Et toujours en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, la capitale économique où vivent plus de 5 millions de personnes, ce loger est devenu un véritable casse-tête pour les populations. Le coût des loyers est jugé exorbitant et le gouvernement a mis en place une politique de logements sociaux qui a cependant du plomb dans l'aile. À Abidjan, les explications de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Quand vous trouvez un loyer quelconque, on vous dit 10 mois d'avance. En plus de cela, il faut ajouter l'eau, l'électricité et chercher à manger pour les enfants et tout ça. Mais où allons-nous ? Le logement en Côte d'Ivoire, il est vraiment cher.
Le logement en Côte d'Ivoire coûte cher. Le sentiment de Dou Sam, ce sexagénaire à la retraite qui vit à Yopougon avec sa famille, est partagé par de nombreux Ivoiriens comme Soumaoro Mamadou, un homme d'affaires.
Il y a une carence véritable. Les loyers sont fixés comme ça. Le gars, il s'élève, il fixe ce qu'il veut. Ça apprend nous à laisser.
Pour un logement confortable de 3 pièces, il faut débourser au moins 150 000 francs CFA dans des communes comme Yopougon, Kokodi ou Markouri, sans compter la caution et l'avance exigée par les propriétaires de maisons. Doussam pointe un doigt accusateur vers l'État.
L'État ne fait qu'augmenter les prix, donc on ne peut pas en vouloir aux pauvres propriétaires. Aujourd'hui, un sac de ciment, je ne sais plus combien il coûte en Abidjan, mais si le monsieur réussit à construire, qui me dit de payer sa maison à 70 000 francs, si je veux vivre dans le luxe, je suis obligé de payer, auquel cas je dors dans la rue.
Lors de la campagne électorale en vue de la présidentielle de 2010, Alassane Ouattara avait fait de l'accès au logement une de ses priorités. Mais 6 ans après, le constat est triste selon Marius Okomoé, président de la Fédération des associations de consommateurs actifs des Côte d'Ivoire.
Nous n'avons que nos yeux pour pleurer parce que c'est suscité et réveillé en nous nos angoisses, nos peines, nos mécontentements. Même dans la politique actuelle des logements qu'on a dit sociaux, ceux-mêmes qui sont des économiquement faibles n'ont pas accès à ces maisons. Les mêmes qui sont DG, PDG, PCA et j'en passe, ce sont eux qui mettent à la disposition des usagers les économiquement faibles s'entend et bien des maisons en location.
Face aux difficultés d'accès au logement, certaines corporations s'organisent. C'est le cas notamment des commerçants. Soumaoro Farikou de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, la FENACSI.
Nous avons signé une convention avec une structure privée ici pour l'acquisition de 100 000 lots pour nos adhérents. Nous avons eu des partenaires canadiens et ces lots seront faits en fonction du pouvoir d'achat de chaque catégorie de commerçants.
Selon le gouvernement ivoirien, le déficit en logement est de 400 000 logements par an pour l'ensemble du pays, dont 200 000 pour la seule ville d'Abidjan. Le 1er mai dernier, lors de la fête du travail, les syndicats ivoiriens ont tous dénoncé devant le président Ouattara les difficultés d'accès au logement. Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique.
Merci Georges. On termine ce journal avec la Syrie. Le régime syrien refuse que l'ONU ou des forces internationales surveillent l'application de l'accord russo-turc-iranien sur les zones de désescalade, a affirmé aujourd'hui le chef de la diplomatie syrienne. Le mémorandum signé jeudi dernier prévoit la création de 4 zones de désescalade en Syrie, doublées de zones de sécurité avec des postes de contrôle et des centres de surveillance tenus conjointement par des forces des pays garants et possiblement d'autres parties. Plusieurs accords de trêve ou de cessez-le-feu ont échoué en 6 ans de guerre, mais ce dernier mémorandum prévoit un mécanisme plus ambitieux grâce à ses postes de surveillance pour éviter les frictions. Jean-Roger Billon à ce micro, le prochain journal dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.